au débat. Pardon. Vous donne la parole à Dominique Perchet.
Merci. Donc dans un débat qui, enfin dans un exposé qui est forcément, pendant que les metteurs au point, forcément dans un cadre limité, celui de, qui m'est imparti, je ne vais pas vous raconter tous les moulins et toutes les histoires des moulins, je pense que beaucoup les connaissent, même si on découvre des choses chaque jour. Je rappelle qu'il y a un bulletin des Amis du Vieux-Saint-Antonin qui est paru en 2016, qui parle des chaussées comme objet méconnu et qui fait un travail donc de recollection de toutes les sources qu'on pouvait avoir sur les moulins du secteur de Saint-Antonin. Par ailleurs, quand l'Association nationale des moulins est venue faire son congrès national dans la région, elle est venue à Saint-Antonin aussi, on avait fait un petit document qui est là. Alors c'est ce qui me reste dans le tirage. Je vais partager en deux. Je vous propose de vous servir en espérant que tout le monde pourra avoir un exemplaire, sachant que ce document est aussi en ligne sur Internet, sur le site des Amis du Vieux Saint-Antonin. Voilà, donc pour les préoccupations très matérielles, donc je vous remets ça, donc en espérant que vous pourrez être servi. Alors, le problème du patrimoine des moulins, c'est qu'effectivement, il est très varié, il est très vaste, donc quand on veut le décrire, on est obligé effectivement de revenir sur des classifications. Et la première, je m'assieds parce que j'ai des problèmes sciatiques. La première préoccupation, c'est effectivement déjà de décrire, d'inventorier les moulins, les biens, ce qui n'est pas toujours facile parce que il y a des moulins disparus, il y a des moulins qui existent, etc. Donc il y a de tout. Donc je vous ferai pas cet inventaire, mais je voulais revenir un peu sur les problèmes de méthode. Ensuite, ces moulins, ils ont, dans le temps, ils ont connu une origine, une évolution. Beaucoup de moulins se sont transformés, ils ont servi à des tas de choses, de travail du blé jusqu'au phosphate, jusqu'à l'hydroélectricité maintenant. Ensuite, ces moulins, ils sont dans l'espace, ils sont dans un territoire, ça n'est pas par hasard. Hein, donc pourquoi il y a un moulin à cet endroit et pourquoi il n'est pas forcément ailleurs, c'est une question qui paraît idiote, mais qui n'est pas tant que ça. Et donc, on va pas balayer tout ça très rapidement, parce que je voudrais arriver à ce qui est le cœur de la réflexion d'aujourd'hui. C'est celui de la cohérence de ce patrimoine, en focalisant sur deux cohérences. L'une, c'est moulin par moulin. Quelles sont les fonctions qu'a eu et qu'a un moulin aujourd'hui et comment, pourquoi et comment on fait pour le préserver. Et puis ensuite, il y a dans un territoire, disons pour faire clair, entre le Quercy et le Rouergue, il y a tout un patrimoine de moulins assez exceptionnel et comment on fait pour aussi préserver l'ensemble. C'est-à-dire, c'est pas la même chose que de préserver un site que de préserver l'ensemble, parce que cet ensemble, il a aussi une signification. Alors, décrire, s'il y a bien un sujet qui a été largement commencé, c'est la description de tout le patrimoine des moulins. Donc vous avez eu, par exemple, alors je suis sûr que j'en oublie, donc je m'excuse auprès de ceux qui se sentiraient lésés, mais nous avons un inventaire important qui a été fait par le CAUE. Alors, le CAUE, c'est le Conseil d'aménagement, d'urbanisme et d'environnement, ou d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, qui en 99-2000 avait fait une étude pour une valorisation touristique des moulins. Donc nous avons des fiches qui évidemment sont datées de cette époque, mais qui nous donnent un certain nombre de repères sur les moulins. Ensuite, il y a eu un gros travail qui a été fait par la communauté de communes, la QRGA, dont vous avez une petite vignette ici, des documents qui ont été faits par des bureaux d'études et dont la finalité est très simple, c'est la continuité écologique. Donc on passe en revue les bassins, les rivières, et on regarde quels sont les problèmes qui se posent pour... Et dedans, à la fin, souvent, il y a une petite ligne sur l'intérêt patrimonial d'un moulin, mais c'est vraiment annexe. Ce qui compte, c'est surtout comment on fait circuler l'eau, les poissons et les sédiments, pour reprendre les mots qu'a employé Thierry Leroy. Et puis, l'inventaire du ministère de la Culture, ici dans le patrimoine, l'inventaire fait au niveau du pays Midi-Quercy, a aussi travaillé sur ces ensembles et a aussi apporté un autre éclairage donc sur les moulins, mais là, tous les moulins ne sont pas traités. Donc, depuis qu'on a donc la problématique des moulins dans le collimateur, on a effectivement beaucoup d'approches. Certains travaillent sur l'aspect naturel, sur la culture, l'économie, l'énergie. Une nouvelle préoccupation apparaît et qui a été évoquée justement ce matin, c'est celle de l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire que si on touche à un moulin, qu'est-ce qui se passe ? Hein, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut détruire impunément une chaussée ? Est-ce que ça va pas, comme disaient certains à Casals, est-ce qu'on va pas trouver la population devant la pelleteuse au moment où on voudrait effacer la chaussée de Casals ? Ou bien est-ce que finalement la population est indifférente à ce patrimoine ? C'est une question qui a monté beaucoup ces temps-ci parce que on voit bien que les réformes, pour parler très politiquement, les réformes, par moment, c'est comme certains remèdes, ça passe ou ça passe pas. Alors, pour vous montrer très rapidement, voilà un exemple pour revenir à Roumégousse, par exemple. Roumégousse, nous avons fait pour justement en vue du congrès national de la Fédération des Moulins, sachant que certains congressistes allaient venir. Nous avons commencé une espèce d'atlas des moulins dans le secteur de Saint-Antonin. Et voilà, pour Roumégousse, on a mis ensemble des ensembles d'éléments qu'on connaissait. Alors, je ne vais pas vous les lire, mais vous voyez, vous avez des cartes sur les profils, vous avez la carte IGN, vous avez des photos satellites, vous avez des photos des installations intérieures, vous avez un texte technique. Donc, tout ça fait partie des documentations d'inventaire, et simplement pour montrer pour mémoire, sachant que tout ça est en ligne maintenant sur le site internet des Amis du Vieux Saint-Antonin. Le CAUE avait fait un travail dont voici aussi une copie, alors j'ai assemblé plusieurs pages, mais vous avez la situation géographique, vous avez le plan du moulin et de la chaussée, vous avez une photo, alors à l'époque tout est en noir et blanc, hein, mais vous avez donc un inventaire qui donne des choses intéressantes, mais très axé aussi tourisme. Hein. Et puis, en 1987, les photos d'Amélie Galup, celles de 1897, et puis les photos faites plus récemment, au moment de la conférence de 2016, quand on a eu le débat, voilà les photos qu'on avait à l'époque. Donc aussi, tout ça fait partie d'une description des chaussées. Alors, pour les chaussées que vous connaissez bien, ça vous paraît évident. Pour certaines chaussées, ça l'est moins parce qu'il faut aller traquer l'information. Les documents historiques ne sont pas forcément en première page de Google. Voilà. Et puis, pour rester à Roumégousse, quand les entreprises fournisseuses d'hydroliennes sont venues tester les possibilités d'équipement de Roumégousse pour produire de l'hydroélectricité, nous avons eu la possibilité, ce qui n'était pas facile, de rentrer, effectivement, d'accompagner les visites et de descendre dans le sous-sol par exemple, de l'ancien moulin de Roumégousse. Alors, ne confondez pas avec le gîte qui est en grande photo, mais on voit à quoi ressemblent les installations, les vestiges d'installations dans lesquelles peuvent se couler ou se coller des hydroliennes productrices d'électricité. Donc, on a pu le faire au gravier, on a pu le faire dans un certain nombre de sites, à Salette, etc. Donc, c'est des choses qui sont pas... C'est pas toujours facile d'accès, mais là, on a pu en profiter. Voilà. Donc, un inventaire. Je reviendrai tout à l'heure sur la notion de projet autour de l'inventaire. Bon. Ensuite, on essaie de placer donc ces moulins dans le temps. Alors là, la réflexion est bien plus simple. C'est première question, est-ce que les moulins sont d'origine monastique ? C'est ce qu'on dit, et c'est en grande partie vrai. Et c'est une des choses qu'on voudrait approfondir avec l'association des cisterciens en Rouergue, puisqu'on sait que les cisterciens, quand ils se sont installés dans les territoires, ont beaucoup misé sur l'énergie hydraulique, les créations de moulins. Et mais ça veut, c'est pas uniquement ça. Il y a pu y avoir des moulins avant, avant les cisterciens. Il y a pu y avoir des moulins après. Enfin, c'est tout ça. Il y a un développement au fil des siècles. Les moulins en plus ont changé de technique. Il y a eu des nouveaux usages. Donc la chronologie n'est pas inutile. Si on fait une étude patrimoniale, c'est vrai qu'on a besoin de se rendre compte des transformations qu'il y a pu y avoir dans un site. Les deux photos de sépia et noir et blanc, c'est le site du Martinet, donc sur la Bonnette, hein, donc où il y avait un moulin hydraulique, et ensuite après il y a eu l'usine avec la machine à vapeur. Voilà, la carte d'état-major de 1849 est une carte détaillée qui vous montre l'emplacement des moulins tout autour de Saint-Antonin, comme dans la carte de Cassini qui date de 1810, qui d'ailleurs est importante parce qu'elle détermine les moulins qui sont ce qu'on appelle fondés en titre, c'est-à-dire qu'ils ont une existence légitime de par leur ancienneté. Les petits ronds rouges que vous voyez dessinés au bord des rivières matérialisent effectivement les installations hydrauliques donc sur le bord de la Bonnette, sur le bord de l'Aveyron. Puis on a comme ça toute la région, on a la France entière hein, d'ailleurs. Et donc ça montre qu'il y avait vraiment un quadrillage extrêmement important du territoire. Et ça se termine par une carte relativement récente, puisque le CAUE en 1999 avait fait une carte de tous les moulins qui étaient dans le secteur. Alors autant les moulins à vent et les moulins à eau, hein, peut-être sans oublier le moulin huile de noix, mais enfin lui il est tout seul. Donc on a cette carte-là qui nous donne l'importance de ce patrimoine. Si je montre ça, c'est bien pour dire que c'est pas un patrimoine ordinaire qu'on peut traiter comme ça, bon comme on traiterait une occurrence, une chapelle. Bon, on a vraiment un patrimoine constitutif de l'histoire du territoire et de son existence. Certains ouvrages ont disparu. La petite photo que vous voyez en bas à droite, c'est non pas Fénérols, mais le moulin de Castagnerette, qui est un moulin qui était situé en aval du moulin des Ondes, et on voit juste la trace quand on se promène à pied sur le sentier de la Loutre. On voit bien les traces dans l'eau de ce qui était la chaussée, qui avait été d'ailleurs photographiée par Amélie Galup à l'époque, elle fonctionnait encore. Voilà. Autre façon de situer tout ça pour brosser un peu le cadre patrimonial, ces moulins, dont évidemment, ne sont pas, j'ai dit tout à l'heure, sont pas installés n'importe où. Alors, il y a soit les moulins qui sont dans la ville, alors ceux-là, vous les connaissez, c'est les moulins, les chaussées qui sont près du camping en amont de Saint-Antonin sur la Bonnette qui amènent l'eau par les canaux aux deux moulins du Bessarel et au moulin des Claustres. Donc deux moulins évidemment qui ne fonctionnent plus mais qui ont encore une présence dans l'architecture. Et puis vous avez les moulins qui se sont faits, comme sur la carte vous l'avez vu, tous ces moulins qui se sont installés en fonction du territoire et qui ont servi d'abord à aménager le territoire, donc drainer notamment des espaces marécageux, qui ont amené la force motrice remplaçant la peine des hommes, qui ont permis de valoriser les ressources locales, et ça s'est terminé par le dernier épisode, c'est effectivement l'utilisation de l'eau, alors cette fois-ci c'est pas un moulin, mais l'utilisation de l'eau, effectivement, avec les thermes, l'économie des thermes à Fénérols et à Saint-Antonin. Voilà. Donc ce petit dépliant que j'ai fait circuler vous montre que le plan de l'eau à Saint-Antonin qui a été dressé par Cécile Rivals dans sa thèse est un plan extrêmement important. Il permet d'expliquer la structuration économique de la ville. Si on y ajoute ce que dit Jean-Louis Laborie, les fossés, les limites de la ville qui utilisent aussi l'eau, on a vraiment une place fondamentale au sens vraiment des fondements dans l'histoire de la ville de cette eau. Donc on a un système exceptionnel qui est extrêmement fragile d'ailleurs, parce que imaginons qu'on fasse sauter ou qu'on aménage entre guillemets, comme ça a été prévu un temps, les deux chaussées qui sont près du camping et qui alimentent les canaux de Saint-Antonin, qui passent, je ne sais pas très bien ce qui arriverait aux canaux de Saint-Antonin. Et je ne sais pas très bien ce que l'économie touristique d'ailleurs pourrait garder une fois qu'on aurait mis à sec des canaux en faisant des contournements de chaussées sur la Bonnette. Alors, le petit dépliant vous montre aussi cette carte, hein, où il y a, on a essayé de placer toutes les chaussées autour de Saint-Antonin, vraiment dans un truc très proche, là-bas de Castagnerette à Salette, du Moulin des Ondes au Martinet, donc tout un patrimoine qui est assez bien connu, qui a eu des histoires éventuellement un peu moins connues parce que ça s'est développé, ça a été détruit, ça a été reconverti. Enfin, ils ont tous eu des activités extrêmement variées, et donc c'est important de revenir sur ce patrimoine. Dans le cadre d'un pays d'art et d'histoire, notamment, moi, ça me paraît fondamental, effectivement, de connaître ça par cœur. Alors j'en arrive maintenant au cœur de l'introduction, je vais reprendre la casquette de mon précédent métier. Vous savez que j'étais consultant en développement local, et je voudrais montrer en quoi le patrimoine des chaussées et des moulins, une fois qu'on lui a trouvé des cohérences historiques, géographiques, etc., ces cohérences sont constitutives éventuellement du projet qu'on pourrait mettre en avant dans les décennies à venir, parce que c'est pas uniquement l'année prochaine, hein, dans les décennies à venir. Et nous avons deux cohérences qui s'emboîtent avec des niveaux d'emboîtement qui permettent de dire que les moulins, les chaussées sont quelque chose auquel il faudrait toucher avec extrême prudence. Et quand je dis ça, ça veut dire que même pour certains, il faut surtout pas y toucher. Hein. Donc, il ne dérange personne. On va en reparler. Les poissons passent. Même ils empruntent même pas les passes à poissons. Ils passent tout droit. L'eau circule en permanence par-dessus les seuils. Hein. Je rappelle que un barrage, c'est plus de 20 mètres et l'eau est arrêtée vraiment. Une chaussée ou un seuil, c'est généralement moins de 5 mètres de haut. Et l'eau passe partout, elle passe par-dessus, elle passe par les côtés, ce qui permet aux sédiments et aux poissons de circuler sans problème. Alors, la première cohérence qui pose problème, notamment déjà quand on parle avec les autorités de l'État, c'est effectivement la cohérence que nous impose en théorie la directive européenne, hein, donc qui est à l'origine de tout ce problème. Qu'est-ce que le moulin, il est au cœur d'un triangle. Alors je parle du moulin tout seul, prenons celui de Romégus, par exemple, du gravier. Il est au cœur d'un triangle vertueux, j'allais dire un triangle amoureux, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut effectivement préserver la qualité de l'eau, c'est ce que nous impose l'Europe. Et il faut éventuellement, si possible, vu les contraintes, l'évolution de notre société et du monde, une production énergétique entièrement renouvelable que nous permet l'eau. Et enfin, vu aussi notre territoire et son positionnement orienté sur le patrimoine, la nature et la culture, il faut aussi protéger ce patrimoine. Donc, et c'est pour certains, ça paraît difficile. Pour nous, ça paraît relativement aisé, à condition effectivement de le vouloir. Alors j'en profite pour rappeler ce que diront peut-être mes personnes qui interviennent après moi, c'est que la directive européenne n'a jamais imposé la continuité écologique. La directive européenne dit tout le monde doit disposer d'une eau abondante et de qualité, et basta, chacun se débrouille avec ce qu'il veut pour faire. En France, on a choisi la continuité écologique, c'est-à-dire de s'en prendre aux seuils, aux obstacles, en disant les poissons ne peuvent plus remonter et les sédiments ne peuvent plus descendre. Tout simplement, alors je vais être très direct, c'est parce que c'est plus facile de s'en prendre au seuil, il suffit de mettre une pelleteuse, que de s'en prendre à la pollution agricole, que de s'en prendre aux pesticides, que de s'en prendre aux effluents urbains, de s'en prendre à tout ce qui met à mal la qualité biologique de l'eau. C'est plus facile de s'en prendre au physique que de s'en prendre au biologique. Donc, on a choisi en France, et la France est le seul pays européen qui a adopté cette voie. J'évoquais tout à l'heure la chaussée en Angleterre. Il y a une chaussée qui ressemble à celle de Romégus, hein, qui est en forme. Alors ici, elle est en V. En Romégus, elle est en forme de fer à cheval. Elle s'appelle Horseshoe Fall, exactement sur une rivière comme l'Aveyron. Ça s'appelle la Dee. Il y a un canal qui en part et qui va alimenter les usines métallurgiques historiques de la révolution industrielle à Coolbrookdale et à Ironbridge. C'est un site. On n'y a rien touché. C'est un site quasiment UNESCO. Hein, on va se promener, on va pêcher, etc. Personne n'aurait l'idée là-bas de dire « Ah, il faut faire une brèche dans la chaussée de Horseshoe Fall ». Je pense que les Anglais, là aussi, comme à Casals, ils seraient tous devant la pelleteuse. Hein, donc le problème du triangle vertueux, c'est que il faut travailler effectivement à concilier ces trois objectifs. Et c'est là que, on en parlera tout à l'heure dans le débat, pour l'instant je campe le débat, mais c'est là où il y a un certain nombre de choses qui posent problème, parce que pour concilier ça, il faut encore avoir envie de concilier les choses, et j'en reparlerai quand on reviendra sur le débat, je me permettrai de revenir là-dessus, parce que les exemples que nous avons sont quand même assez parlants. Et puis, si jamais une chaussée disparaît, ben voilà un exemple. En 1930, la crue de 1930 a fait disparaître la chaussée de Roumégousse. En 1946, quand l'IGN, l'Institut Géographique National, a fait ses premières photos avions, au-dessus de Saint-Antonin, la chaussée n'était pas encore reconstruite. Et qu'est-ce qu'on voit, j'ai pas de pointeur, mais qu'est-ce qu'on voit, le pont est ici, et puis vous avez à la place du miroir d'eau, vous avez un torrent avec pas beaucoup d'eau, avec des dépôts de sédiments. L'Aveyron passe là-dessus en travers comme elle peut. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu, les habitants avaient commencé à rouspéter parce qu'en plus, les stations d'épuration à l'époque n'étaient pas aussi performantes, ça sentait mauvais. Donc on a rebâti la chaussée de Roumégousse, on l'a reconstituée. Donc j'en profite aussi pour dire que une chaussée, évidemment, a des tas de formes, enfin d'avatar, elle s'est transformée, mais l'objet chaussée lui-même reste. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est passé de tel matériau à tel autre matériau que la chaussée n'est pas la même. Donc toutes ces rivières dans notre secteur, que ce soit l'Aveyron, ici on parle d'Aveyron aval, le Vior, la Seille, la Bonnette, l'Aver, le Cérou, toutes ces chaussées donc ont été équipées en seuil. Et donc c'est tout un pays qui s'est développé. Alors est-ce que c'est Saint Bernard, s'il est venu d'ailleurs, c'est lui qui a fait développer les moulins, parce que la devise des cisterciens donc c'est ora et labora, c'est-à-dire tu pries et tu travailles, mais finalement si le moulin travaille à ta place, tu peux prier mieux. Puis en même temps, tu remplis les caisses de l'abbaye. Donc ça augmente la puissance de l'abbaye. Et en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que les cisterciens ont créé une économie rationnelle extrêmement productive. C'est ce que nous on appelle la première révolution industrielle fondée sur l'utilisation des moulins. Les bénédictins, eux, comme l'abbaye de Saint-Antonin, ne s'occupaient pas, c'était pas leur truc. Hein. Ils vivaient pas de la même façon. Les cisterciens ont vraiment changé la donne, ce qui explique d'ailleurs qu'avec l'abbaye de Beaulieu et l'association des cisterciens en Rouergue, on voudrait, si possible, pouvoir approfondir ce genre de recherche historique pour savoir ce qu'il y avait avant, comment ça s'est développé. C'est aussi un argument pour nous vis-à-vis de l'administration pour dire touche pas à mon patrimoine, parce que pourquoi on protégerait Beaulieu, abbaye, et pourquoi on ne protégerait pas les chaussées qui sont elles-mêmes issues de l'abbaye? Elles sont une extension de ce patrimoine historique, et si je reste sur le champ du patrimoine, hein, je laisse de côté la qualité de l'eau et l'énergie, c'est un autre sujet qui est compatible, pourquoi finalement on dénigrerait finalement tout ce patrimoine au motif qu'il est pas, c'est des barrages, c'est des seuils, etc. Donc le dernier transparent que je vais vous montrer, c'est un transparent sur la méthode. Alors, là, je termine hein, avec ça. Mais donc nous avons, et ça me semble être une manière d'organiser le débat, mais surtout d'organiser la façon de travailler pour après. C'est-à-dire que finalement, nous avons en haut, donc je disais, un pays, un bassin hydraulique, ce qu'on appelle l'Aveyron aval. Hein. Aveyron aval, c'est l'Aveyron et tous ses affluents. Donc ça, on voyait bien ce que c'est. Nous avons dedans des moulins qui sont installés, Je rappelle qu'un moulin, c'est une chaussée, une rivière, des droits d'eau, des vannes et des installations de production. C'est un tout, ça ne peut pas être coupé en morceaux, hein, même si c'est déjà arrivé, comme à Salette. Normalement, c'est un tout indissociable. Donc les moulins, et puis ce qu'il faut faire avec ça, c'est comment on peut trouver une cohérence territoriale qui permette d'y asseoir un projet, hein. Donc, qu'est-ce qu'on raconte et qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut faire de l'énergie, on peut faire du poisson, du tourisme, du canoë-kayak, on peut tout faire, mais il faut que ce soit un projet cohérent qui permette de donner du sens et qui montre bien que tous ces moulins sont reliés entre eux et qu'ils ont une histoire et un rôle commun. Et enfin, ça permet d'avoir une politique de valorisation sur le thème nature-culture, hein, mais On peut faire de l'écologie, on peut faire de l'énergie, du patrimoine, du tourisme. Ça peut servir à l'image de marque du territoire. D'ailleurs, les gens le savent bien, quand ils viennent ici, c'est aussi pour l'Aveyron. Hein. Donc, on a un sujet et on retrouve cette trilogie vertueuse, c'est-à-dire que comment on préserve la qualité de l'eau. Donc, est-ce que d'abord, nous, en tant que patrimoine, je parle des amis du Saint-Antoine, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Est-ce que c'est notre sujet ou pas? C'est peut-être aussi le sujet d'autres instances. Hein. Mais, par exemple, quand l'agence de bassin Adour-Garonne travaille sur le projet de valorisation du bassin Adour-Garonne, ils ont eu une séance ici qui a duré plusieurs jours, ils en ont eu plusieurs, j'aurais bien aimé que l'aspect patrimonial soit abordé, ce qui n'a pas été le cas. Hein. Donc ça montre bien que quand on dit il faut tous ensemble travailler en même direction, il faut savoir ce que veut dire le mot tous et le mot ensemble. Hein, donc, hein. Ensuite, la dynamique, manifestement pour nous, c'est valoriser l'énergie, parce que dans nos temps de difficultés climatiques et la crise écologique, il me semble que c'est vraiment devenu maintenant une priorité, sachant que toutes les chaussées, on en parlera, toutes les chaussées peuvent accueillir des micro-équipements. Et des fois même, de façon invisible. On peut, par exemple, au moulin de Fontalès, poser une micro-hydrolienne le matin, elle fonctionne le soir, et vous ne voyez pas la différence. Hein, donc, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il faut vraiment faire des gros travaux pour adapter certains équipements. Et enfin, valoriser le lieu, donc l'histoire, le patrimoine, le paysage, l'identité territoriale, c'est ça donc qu'il faut maintenant mettre en œuvre. En fait, donc j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais la question et l'ouverture que j'aimerais qu'ils sortent à la fin de cette journée et des réflexions qui vont suivre, c'est comment enfin tous ensemble on est capable de raisonner pour faire concilier ces trois choses plutôt que de les séparer, de mettre des barrières étanches qui font que de toute façon ça se terminera au tribunal. Donc il est important de créer de la cohésion et le thème de l'eau. N'est pas neutre, hein, donc, mais c'est pas gagné parce que on en parlera dans le débat tout à l'heure. Moi, je vous citerai quelques exemples. J'ai évoqué ça un peu ce matin, mais quelques exemples qui montrent qu'il y a encore du chemin à parcourir, que ce soit du côté du service de l'État, que ce soit des services éventuellement dans les bureaux d'études, par exemple, ou bien tout simplement dans les démarches d'agences de bassin. Nous avons, c'est pas encore gagné. Et donc, c'est patrimoine qui me semble extrêmement important, qui est lié à toute l'histoire du territoire, ne peut pas être traité à légère et ne peut pas être traité à coups de pelleteuse, notamment. D'autant que l'argent qui est mis là-dedans est un argent colossal. Vous savez que pour aménager la chaussée de Salette, qui appartient à Montauban, qui veut la faire sauter, hein, plus ou moins, pour simplement aménager Salette, qui n'a dérangé personne, c'est entre 350 000 et 600 000 euros. Dites-moi si l'argent est si abondant que ça pour qu'on mette 600 000 euros, même 350 000, dans un aménagement de Salette qui en plus privera le moulin et le centre de vacances de ressources énergétiques dont il a besoin et dont il pourrait profiter. Voilà.